contre Euralil. C'est le nom d'un bouquin sorti en avril 2019. Il est signé par deux anciens du journal La Brique, Antonio Delfini et Raphaël Snorriguzzi. Au travers de cet essai, ces deux observateurs nous livrent une critique, pas seulement d'un quartier de ville, mais d'un certain modèle de développement des métropoles. On écoute un entretien par téléphone avec Antonio Delfini.
Ce livre, c'est le résultat d'un travail d'enquête. On a réalisé des entretiens, même s'ils ne sont pas mentionnés directement à l'intérieur du bouquin. On a fait beaucoup de travail d'archives, mais c'est le résultat aussi d'une veille informationnelle depuis 10 ans, voilà, avec des articles réguliers dans le journal La Brique qui essayaient de renseigner au jour le jour un peu les évolutions de ce quartier et les évolutions de l'agglomération. Donc voilà, le bouquin est le fruit d'un regard d'habitant, d'un regard informé de journaliste, on va dire, et d'un travail d'enquête.
On parle de ce quartier Euralil, quartier d'affaires à Lillois. Comment tu décrirais Euralil à quelqu'un qui ne connaît pas ce quartier ?
Alors, je dirais que c'est un quartier un peu impressionnant quand on le voit pour la première fois, parce que effectivement, il contraste en tout point avec le reste de la ville de Lille et même le reste des communes de l'agglomération. Donc c'est un grand quartier avec des tours assez hautes, de près de 100 mètres, de plus de 100 mètres même, qui est articulé autour d'une gare de TGV internationale qui est reliée à Londres, à Amsterdam, à Paris. Un énorme centre commercial dans sa partie nord et des immeubles de bureaux à n'en plus finir. Alors ça, là je parle du quartier tel qu'il est apparu quasiment pour la première fois au milieu des années 90, et il faut savoir que Euralil depuis les années 90 ne fait que grandir. Donc quand on parle d'Euralil, il faut bien se mettre d'accord sur quoi on parle. Est-ce qu'on parle du quartier d'affaires de base qui a été construit au milieu des années 90, ou est-ce qu'on parle de Euralil 2, est-ce qu'on parle de la porte de Valenciennes, qui sont successivement d'autres opérations urbaines qui sont venues agrandir ce quartier d'Euralil. Et donc, si on le prend dans son acception large un peu, Euralil, c'est la plus grande opération urbaine de l'histoire de Lille. Voilà, comme il en existe dans d'autres villes aussi, d'autres quartiers un peu sur cette forme-là, et c'est ça dont il faut être bien conscient, c'est-à-dire qu'on est sur une opération comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de Lille depuis sa création. On parle de centaines d'hectares, on parle de construction de bureaux en milliers, de logements également. Donc voilà, c'est une opération qui métamorphose un peu la ville et était censé la propulser dans une nouvelle ère économique.
Pour celles et ceux qui observent ou qui vivent ce quartier, c'est un quartier gris qui laisse peu de place finalement à d'autres activités humaines que la consommation. Comment tu vois ça, toi ?
Bah oui, c'est un quartier qui, au départ, en tout cas, donc dans sa première mouture, laisse assez peu de place à l'habitation. On n'est pas sur un quartier résidentiel. On est sur un quartier, comme je disais, de consommation, de travail, de flux avec des passagers. Donc c'est un quartier qui connecte un peu l'ensemble des moyens de transport de l'agglomération: métro, tram, bus, TGV, train, boulevard périphérique, autoroute. Voilà, on a vraiment un croisement des infrastructures de transport en fait sur ce lieu-là. Et donc on a un urbanisme un peu brut et un peu difficile. Par ailleurs, ce qu'on montre dans le bouquin aussi, c'est que ce quartier a été pensé avant tout comme un croisement des nœuds de transport et pas du tout pour quelqu'un qui viendrait à pied ou en vélo. C'est un quartier qui est très difficilement praticable. Ça, tout le monde le reconnaît plus ou moins, mais très difficilement praticable pour un piéton ou un cycliste. Aujourd'hui, il y a un projet de réhabilitation Euralil 3000 qui est censé venir essayer de un peu colmater les brèches un peu du projet de départ qui n'a clairement pas été pensé pour les piétons, les cyclistes, les gens qui pratiquent la ville au ras du sol. Et effectivement, sur le côté esthétique, alors nous on a voulu un peu sortir de cette question de la critique esthétique, en essayant d'avoir un point de vue plus social et politique. Qu'est-ce que nous disait de politique l'esthétique de ce quartier? Ce quartier, il a été construit par les grands noms de l'urbanisme de l'époque, notamment par un qui s'appelle Rem Koolhaas, qui est aujourd'hui devenu ce qu'on appelle un star-architecte, c'est-à-dire un architecte à renommée mondiale qui vient signer des bâtiments dans un peu toutes les agglomérations et les grandes métropoles mondiales. Et en fait, ce quartier a été conçu comme une juxtaposition d'œuvres d'art par beaucoup de grands urbanistes. On a Portzamparc Park, on a Jean Nouvel, on a donc Rem Koolhaas. Et nous, ce qu'on montre, c'est que voilà, chacun a voulu un peu tirer la couette de son côté, se construire une grande œuvre, un grand bâtiment à cet endroit-là, mais qu'on n'a pas pensé ce qui fait la ville, toutes les aménités, tous les services, toutes les déambulations qu'on peut faire dans une ville et qui font qu'une ville est une ville. Et donc là, ici, on a un quartier qui est voilà, effectivement assez terne en termes esthétiques, de couleurs. Et surtout, on a un quartier qui, passé 21h, est devenu un quartier mort, quoi. Un quartier qui ne vit plus, dans lequel on n'a plus personne qui passe et dans lequel on a peur d'y passer pour beaucoup de personnes. On n'y passe pas. Et donc voilà, pour nous, c'est une non-ville, une anti-ville, quoi. Quelque chose qui est dépouillé un peu de tout ce qui fait qu'une ville est praticable et appropriable par les habitants.
C'est un projet Ralil qui est né dans les années 90, qui a été lancé en tout cas dans les années 90. C'est symptomatique, selon toi, de ce que vous appelez l'utopie métropolitaine. Est-ce que tu peux nous en parler, nous développer ce point?
Ouais. Alors cette question, donc on a sous-titré effectivement le bouquin une critique de l'utopie métropolitaine. Alors ça fait référence à plusieurs choses à l'intérieur du livre. La première chose, c'est que on prend utopie en son sens littéral, qui est qu'on traduit par non-lieu, c'est-à-dire que en fait ce quartier vient s'installer sur un terrain qui lui était en tout point différent. Euralie vient s'installer sur les terrains des anciens remparts, sur lesquels il y a pu avoir une vie populaire qui s'est développée pendant des décennies en fait au XXe siècle, et Euralie vient raser ces terrains-là et vient construire une ville qui est voilà en tout point différente. Ensuite, on utilise aussi le terme utopie parce que c'est quelque chose qui nous est beaucoup reproché aux personnes qui essayent d'imaginer une autre ville que la ville un peu néolibérale et capitaliste qu'on a qui se déploie sous nos yeux, en nous disant qu'on est utopiste. Mais nous, on a l'impression que ce quartier qui ne fonctionne pas, en tout cas qui n'est pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé au moment de sa création, c'est les promoteurs de ce quartier-là qui sont utopistes, à vouloir chercher une internationalisation de l'île à travers la construction de ce quartier, à vouloir attirer des grandes entreprises américaines, internationales, pour s'installer. Voilà, c'était le renversement un peu de la critique en disant c'est les promoteurs de ce quartier-là qui sont utopiques et c'est pas ceux qui prônent une ville plus respectueuse de ses habitants. Donc voilà, l'utopie, c'est une caractérisation du quartier et une caractérisation de ceux qui ont porté ce quartier-là et de toute l'idéologie qui est un peu mise en place. Et cette idéologie, pour nous, on peut la résumer assez simplement, c'est dire qu'aujourd'hui, les maires des grandes villes, les présidents de communautés urbaines et le patronat au niveau de toutes les agglomérations est rentré dans un schéma de pensée qui consiste à dire que les villes sont des produits à positionner sur des marchés concurrentiels, c'est-à-dire que Lille est en concurrence avec Lyon, est en concurrence avec Marseille, est en concurrence avec Bordeaux, et pour ça il faut construire des avantages comparatifs, construire des particularités à la ville pour lui permettre de se positionner dans ce marché en concurrence. Donc c'est vraiment voilà l'idéologie un peu néolibérale du capitalisme qui s'est saisie non plus de produits, non plus de marchandises, mais bien des villes qui sont transformées en marchandises. Et donc voilà, cette idéologie pour nous, elle raconte ça. Elle raconte la prise en charge du destin des villes par l'idéologie néolibérale actuelle.
Je retire mon chapeau, allume une cigarette. Ça fait même pas 2 ans et je reconnais plus les rues où je vivais. Les petites maisons, place du carnaval, se sont fait remplacer par un immonde immeuble avec grille à l'entrée. Et le petit jardin où les fumeurs de joint, les enfants et les vieux passaient leur journée est devenu un parking pour les automobiles avec code d'accès. Ça donne envie de chialer ou de prendre un bulldozer pour raser leurs conneries et tout remettre comme c'était. Si j'étais président, je ferais une loi pour interdire tout ça parce que c'est criminel d'exproprier les gens pour raser leur histoire, construire des bâtiments plus vite que des couloirs. Sous-entendu tacite, on fait ce qu'on veut ici et puis on vous emmerde. On détruit pas comme ça une vieille bâtisse qui a près de 100 ans et que des petites mains ont fait pierre par pierre. Surtout quand c'est pour faire par-dessus les décombres un grand bloc que tout sombre qui n'évoque rien d'autre que la fin du monde. Des fois ça donne envie d'aller poser des bombes, d'aller poser des bombes au pied de la mairie ou bien dans les bureaux des promoteurs qui gèrent ces chantiers de malheur qui détruisent nos vies. Pas président, sûrement pas près de l'être. Je retire mon chapeau, j'allume une cigarette.
À l'instant, on écoutait le groupe La Goutte qui nous parlait d'un autre quartier de Lille, à savoir Moulins. On revient à notre entretien avec Antonio Delfini, co-auteur du livre Contre Euralille. À la base d'Euralille, il y avait l'idée de faire de Lille un carrefour de l'Europe, d'attirer des cadres supérieurs de Paris, de Bruxelles, de Londres, d'attirer des entreprises. On peut parler quand même de relatif échec de ce projet-là, mais par contre, Lille et Euralille a réussi à devenir une métropole au niveau régional et a finalement attiré les entreprises et un peu sucer le sang, on peut dire ça comme ça, des autres villes de la région.
Oui, bah alors ça c'est sûr, nous on dit effectivement Lille a changé avec Euralille, mais ça aurait été impossible que Lille ne change pas vu l'argent, les milliards d'argent public investis dans cette opération. Pour le moins, on pouvait s'attendre à ce que Lille change. Après, nous ce qu'on dit c'est de 1, que Lille n'a pas changé à la hauteur de ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire on nous avait annoncé que le quartier Euralille serait la pointe avancée en fait d'une reconversion de toute l'agglomération dans une ville qui serait post-industrielle. On a fini le temps des usines, on a fini le temps du textile, et Euralille va nous projeter dans le 21e siècle dans une économie du tertiaire, du service. Bon, ce qu'on montre, c'est que ça, ce qu'on montre après d'autres, parce qu'il y a déjà eu d'autres ouvrages qui ont été écrits sur cette question-là. Je pense notamment à Sociologie de Lille, qui était sorti en 2017 aux éditions La Découverte. Ce qu'on montre, c'est que effectivement, le projet n'est pas à la hauteur des attentes et de ce qui avait été annoncé au moment de sa création. Mais ce qu'on montre aussi, qui là va peut-être au-delà d'anciens ouvrages, c'est que non seulement il n'y a pas eu une reconversion de l'agglomération, non seulement Euralille n'a pas marché à la hauteur où on nous l'avait dit, mais en plus, c'est que ça a été quelque chose de très, très intéressant pour les anciennes fortunes du textile, justement. Donc, les ouvriers n'ont pas réussi à retrouver du boulot avec Euralil. Par contre, les capitaux de l'industrie, et notamment les capitaux du textile, ont très bien réussi à se reconvertir dans ce nouveau, dans les nouveaux marchés qui étaient ouverts par Euralil. Et donc, on parle notamment des entreprises de BTP ou des entreprises de promotion immobilière qui étaient à la base avec des capitaux du textile, donc de l'ancienne forme d'accumulation, l'ancienne économie du XXe siècle, et qui ont réussi à bifurquer sur cette nouvelle économie, à profiter des nouveaux marchés qui étaient donnés, et après à s'étendre. Donc on pense à l'entreprise Rabot du Tilleul qui a réussi à voilà une expansion assez importante parce qu'ils ont en profitant des marchés qui étaient offerts par Euralil, c'est quasiment eux qu'ont tout construit ou qu'ont joué le rôle de promoteur. On pense aussi à Georges V qui a construit la tour L qu'on connaît de Portes en Parc, qui était héritée des capitaux de Bernard Arnault et qui ensuite est devenue Nexity, la première entreprise de promotion immobilière en France. Donc voilà, il y a eu une transformation. Il y a eu effectivement une transformation de la ville, mais encore heureux quand il y a eu une transformation de la ville, vu que il y a eu vraiment une mobilisation de tous les acteurs économiques, publics, pendant 30 ans autour de cette question-là. Donc encore heureux qu'on ait eu des changements. Par contre, pour les gens d'en bas, les ouvriers, les chômeurs de l'agglomération, Euralil et la dynamique que ça a enclenché, ça n'a pas profité du tout à ceux à qui ça devait donner du boulot, ou en tout cas à ceux à qui on disait « on vous rendra du boulot avec la création de ce parc-là ». Et à contrario, à l'autre extrême des rapports sociaux et de l'économie, ça a permis des reconversions juteuses de capitaux, anciens capitaux industriels qui aujourd'hui sont sur les questions du luxe, de la finance, de l'immobilier. Là, Euralil a offert des portes d'entrée assez intéressantes en fait pour des reconversions. Donc voilà, changement effectivement, mais un changement très contrasté en fonction de là où on regarde les choses. Et pour les gens d'en bas, ça n'a pas changé grand-chose, voire même ça a empiré sur certains aspects. Pour les gens d'en haut, effectivement, il y a eu des potentialités de reconversion très intéressantes.
Ça peut paraître étonnant parce que la figure politique qui a porté ce projet pendant longtemps, c'est Pierre Mauroy, qui représente quand même l'aile gauche du Parti Socialiste, hein, Pierre Mauroy, ancien maire de Lille. Tu vois aussi dans ce projet finalement une forme de bascule au niveau du socialisme municipal ?
Ouais, bah alors ça c'est assez intéressant. Donc c'est le premier chapitre du bouquin qui essaye de reprendre qu'est-ce que dit politiquement en fait ce quartier, c'est-à-dire sur l'échiquier politique, qu'est-ce qu'il dit concrètement des évolutions du socialisme municipal. Et donc effectivement, on peut voir Pierre Mauroy, et puis surtout on sait que aujourd'hui Martine Aubry est vue comme faisant partie plutôt d'une aile gauche en fait au sein du Parti Socialiste. Ce qu'on montre, c'est qu'il faut passer un peu au-delà des positionnements nationaux, des petites phrases au niveau national qui implantent un personnage, et regarder un peu ce qu'ils font concrètement. Pierre Mauroy, il a été effectivement catalogué comme étant plutôt de gauche pendant les années 70-80, mais ensuite ça va devenir le premier ministre de François Mitterrand qui va mettre en place, en tout moins au début, le tournant de la rigueur, quoi, avec une acceptation des lois du marché, avec la construction de l'union monétaire et financière européenne. C'est quand même Mauroy qui est à la tête de ça à Matignon en tant que Premier ministre. Et donc pour nous, en fait, il va faire la même chose de ce qu'il a fait au niveau national, il va le faire au niveau local. Et ça traduit effectivement une grande transformation un peu à l'intérieur du Parti Socialiste et de la manière de gérer et le pays et les collectivités locales et les villes. C'est-à-dire qu'on met de côté un peu tout ce qui faisait la particularité du socialisme, notamment dans le Nord, c'est-à-dire de se revendiquer de la cause des ouvriers, de construire un projet d'émancipation qui soit celui de faire évoluer les conditions de vie des classes populaires, à une acceptation pure et simple de la manière dont fonctionne en fait le système économique. Et donc ça, voilà, ça traduit le passage du Parti Socialiste d'un parti centré sur l'électorat ouvrier à un parti qui est aujourd'hui construit. Donc voilà, pour Pierre Mauroy, un centre commercial à l'américaine, comme les malls américains qui ont émergé dans les années 60 aux États-Unis. Mais pour Martine Aubry, quand elle a repris en fait le quartier de Raleigh, elle y a construit un casino. Et donc on est plutôt sur voilà des modèles qui sont plutôt les modèles américains du capitalisme, un peu de la consommation quoi. Donc effectivement pour nous ça traduit des choses assez fondamentales en termes d'évolution idéologique, notamment du Parti socialiste. Et d'une certaine manière, le fait que le bouquin sorte maintenant, alors que le PS est en train d'exploser, c'est aussi peut-être parce que le Parti socialiste, au début des années 80, s'est converti à cette idéologie et a mis en place des projets tels que celui de Ralil, qu'aujourd'hui il est dans la difficulté qu'il rencontre actuellement. Quoi.
Entre le textile, le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terrils, les crachins, le chicon, la grisaille, le brouillard et la jeanlin. J'y suis né, j'y errais, j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du Nord, ses routes, ses trottoirs de pavés, sur mon mountain bike, j'ai roulé, à grand bas des gants bergers, ruminé, rêvassé, les semelles de mes Nike, je les ai usées, quand la pluie froide vient te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon. C'est le stress, l'angoisse, au rythme des saisons, 65 jours de soleil et 300 jours de dépression. À part ça, tout va bien, chez moi dans le Nord, c'était juste 16 mesures pour te planter le décor.
Je suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de ch'lor. Je suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo.
De foot supporté par les skins, des élus avec des promesses à 2 centimes, une police nationale qui nous prenne pour des cobayes, police municipale qui se prennent pour des cowboys, contrôle abusif, expulsion des sans-papiers, HLM insalubre où règne la précarité, l'île, le fief, le pays des socialos, la gauche caviar, discriminante et démagogue, dans nos murs comme l'amiante, invisible et dangereuse, franc-maçonne vicieuse, paternaliste et mafieuse, ça se la raconte intègre, authentique et populaire, et à chaque mandat ils nous la font à l'envers. Je sais pas si les Lillois ont de la merde dans les yeux, vu le ramassis de merde qu'ils nous foutent dans les urnes. Il serait temps de mettre un coup de pompe dans cette fourmilière du poison, quelques pièges, quelques souricières.
J'suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de ch'lor. J'suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo.
Live by night, c'est pathétique à voir. À la sortie des pubs, ça dégueule sur les trottoirs. Toxico, pique du zen dans les halls de gare, et ça refoule les bronzés à l'entrée des bars. Je veux pas te faire l'apologie, mon code postal, le FRQ ou le chauvin à 2 balles. Dans ce pays, on me rappelle que je suis pas chez moi ici. J'ai mes repères, ma famille, c'est déjà ça. Alors je fais avec ce que j'ai, même si ça me fait chier. Loin de me complaire ou d'accepter la fatalité, j'ai choisi d'ouvrir ma gueule, militer en chroniquant. Peut-être que je brasse du vent, mais ça me fait passer le temps. J'en place une pour les bras d'eux et les petits pouchins, une pour HK, mon grand rochin, très très loin des décors paradisiaques. Mais finalement, qu'est-ce qu'on est bien à ce baraque.
J'suis un lio, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de ch'lor. J'suis un lio, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de ch'lor.
Vous aurez forcément reconnu MAP, le ministère des Affaires Populaires, avec le titre Lilo sur l'album Debout là-dedans, c'était en 2006. troisième et dernière partie de notre entretien avec Antonio Delfini, co-auteur du livre « Contre Euralil, une critique de l'utopie métropolitaine ». Tu l'as dit, Euralil, c'est pas fini. Et puis le modèle de développement que ça sous-tend est toujours en cours. Il y a Euralil 2, il y a la porte de Valenciennes, il y a Saint-Sauveur. Sans parler de Euratechnologie, Eurasanté, Euralance aussi.
Ouais. Tout à fait. Bah, en fait, ce qu'on montre un peu à l'intérieur du bouquin, c'est qu'effectivement, Euralil, l'arrivée d'Euralil au début des années 90, a métamorphosé toutes les politiques urbaines et économiques de l'agglomération lilloise, voire même de la région et de la France entière. Donc, au niveau de l'agglomération, l'arrivée d'Euralil, c'est le témoin d'une nouvelle philosophie qui arrive, qui dit la ville doit être attractive et attrayante pour les grandes entreprises. Et donc, il faut construire ce qu'ils vont appeler des pôles de compétitivité, des pôles de croissance. Et donc, il y a Euralil qui arrive dans les années 90, il y a Euratechnologie qui s'installera à l'homme plus tard, il y a Eurasanté qui s'installe à Loos. Effectivement, on a Euralance, donc, qui est une association qui essaye de faire remonter le bassin minier, notamment autour de la ville de Lens, pour essayer de lui redonner une dynamique économique. On a Euraénergie à Dunkerque, on a Euralimentaire près de la 25, on a, c'est le sigle Eura est décliné suivant, on a Euraartisanat qui s'est installé à la porte d'Arras à Lille. Le sigle Eura est décliné suivant toutes les moutures, parce qu'aujourd'hui, c'est cette idéologie métropolitaine qui se décline à Lille avec le terme Eura qui est dominante et qui est de dire il faut construire des pôles de concentration d'activité pour faire venir les investisseurs. Malgré le fait que ça n'ait pas marché sur Euralil, c'est quand même cette idéologie-là qui est aujourd'hui encore déroulée partout. Et donc nous, ça nous pose question. Est-ce que pour comme seul horizon économique et urbain aujourd'hui, on a cette histoire de pôle de compétitivité, de pôle de croissance et d'attractivité, ça pose problème. D'autant que ça s'est décliné au sein de la ville de Lille, ça s'est décliné dans la région avec Lens, Dunkerque et compagnie. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis l'installation d'Euralil, on a eu Euratlantique à Bordeaux, Euro-Rennes, Euro-Méditerranée à Marseille, Euro-Sud-Ouest actuellement à Toulouse avec la construction d'une tour de 150 mètres de haut et d'un nouveau quartier d'affaires autour de la gare. Et donc en fait que cette matrice qui est née à Lille au milieu des années 90, elle a été ensuite dupliquée partout en France et qu'aujourd'hui chaque quartier, chaque ville veut construire son quartier d'affaires à proximité de sa gare et qu'on est sur un modèle de copier-coller, d'uniformisation en fait de toutes les agglomérations avec cette même ligne directrice d'attraction des capitaux. Et donc voilà, c'est pour ça que s'intéresser à Euralil, ça nous semblait assez pertinent vu que c'est le premier projet de cette envergure et que c'est un projet qui a ensuite après été utilisé comme matrice pour la ville, la région et la France entière en fait.
Alors Antonio, tu nous brosses un dessin, une peinture assez désespérante, mais heureusement il y a dans le dernier chapitre du livre ce chapitre est consacré aux résistances, résistance à ce que vous appelez le rouleau compresseur métropolitain. Est-ce que tu peux nous parler de ces résistances?
Ouais, donc il nous semblait important, ça je l'ai pas dit, mais cet ouvrage il prend place au sein d'une nouvelle maison d'édition lilloise qui s'appelle les éditions Les Étacs et qui a sorti trois bouquins en avril là, sur trois genres littéraires différents. Le premier qui est de la poésie, le second qui est du roman et donc nous avec ce bouquin-là, le troisième qui était des essais. Et il nous tient à cœur en fait dans les essais qui seront donnés à l'intérieur de cette maison d'édition, d'être à chaque fois dans la proposition, de pas se contenter d'un simple constat, d'un constat généralement un peu noir de la manière dont évolue le monde aujourd'hui, et de proposer des perspectives pour s'investir et pour faire changer les choses. Et donc Donc effectivement, le dernier chapitre, il revient sur ces perspectives-là. Et il essaye, il essaye d'en dessiner trois qui sont pas forcément les seuls, mais qui nous semblaient intéressants. Et surtout, il essaye de dessiner des perspectives qui sont déjà là aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut pas dire il faut, il y a qu'à. Il y a des choses qui sont mises en place dès aujourd'hui qu'il faut intensifier et qui nous permettent d'avancer. Donc la première, c'était d'utiliser les outils des faibles, des dominés, ceux d'en bas, et c'est notamment l'outil juridique, c'est-à-dire pour se défendre face à des projets urbains qui arrivent et qui veulent déloger des habitants, qu'ils soient locataires ou propriétaires, déloger des habitants d'un quartier. On peut saisir la justice pour essayer de faire valoir son droit. Et donc ça, on avait deux exemples dernièrement là qui sont arrivés et qui ont contraint la société d'aménagement, la SPL Euralil, qui met en place le quartier, qui l'ont contraint à reculer en partie. Donc effectivement, la lutte juridique et la lutte de terrain qu'il y a eu au niveau du quartier Saint-Sauveur, là, et notamment au niveau du Belvédère avec l'installation d'une maison construite en bois, d'œuvres d'art dans le cadre d'un festival, un contre-festival culturel l'année dernière. Et donc, avec une procédure en justice qui roule toujours, mais qui essaye d'empêcher la construction d'une piscine olympique qui devait être installée pour les entraînements des nageurs aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, et la construction de ce quartier. Et puis, un deuxième sur... un petit tronçon d'habitation du côté du quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin, l'île aux Pépinières, où là, les habitants, depuis 2014, sont engagés dans ce qu'on a appelé des guérillas judiciaires, des batailles juridiques avec les autorités pour pouvoir continuer à habiter leur maison et qu'elles soient pas rasées pour l'avancée inexorable du quartier Euralil sur les faubourgs avoisinants. Donc ça nous semblait être une première perspective un peu à intensifier et à mettre en place. La seconde perspective, c'est celle qui viserait à l'auto-organisation des habitants à l'intérieur des quartiers. On connaît de près les initiatives qui sont mises en place, notamment par les ateliers populaires d'urbanisme, les APU à Lille, qui ont une longue histoire depuis les années 70, et histoire d'organisation d'habitants face aux projets de rénovation pour... Que ceux qui vivent les quartiers puissent avoir leur mot à dire sur la manière dont ils vont être transformés. Et donc, il nous semble important pour pouvoir tenir des rapports de force sur la durée, sur la longueur, d'avoir ces structures-là présentes à l'intérieur de chaque quartier. Donc, on appelle à intensifier un peu ces mobilisations-là avec la création de ces APU qui sont pour nous, en réalité, l'équivalent du syndicat dans le domaine du travail. Les APU sont le syndicat dans le domaine du logement. Et donc, on construit un peu sur ce dernier chapitre cette analogie un peu entre le monde du travail et le monde du logement, en disant un projet de rénovation qui expulse de leurs habitations plusieurs dizaines de personnes, c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un licenciement collectif à l'intérieur d'une entreprise. Et donc, comme les syndicats vont monter au créneau pour défendre les salariés dans le cadre d'un licenciement collectif, il faut qu'on ait des syndicats de quartier pour monter au créneau dans le cadre de rénovations qui vont expulser plusieurs dizaines de personnes. Donc voilà, création de comités au niveau local à l'intérieur des quartiers. Et enfin, la dernière, c'est sur tout ce qui est réappropriation ici et maintenant, concrètement, de la manière dont on construit les villes, de la manière dont on construit les maisons, même si on est contraint par des règles d'urbanisme qui sont de plus en plus strictes et de plus en plus difficiles, mais occuper les rues, sortir de chez soi, réaménager l'espace où on vit, que ce soit à l'intérieur des logements ou à l'extérieur, voilà, reconstruire un peu et être force de proposition et faire dès maintenant un peu des aménagements dans nos logements et dans nos rues qui peuvent permettre de rendre la vie plus la vie collective en ville plus appréciable et plus dynamique et plus puissante de la part des habitants, quoi. Donc voilà, c'est trois dynamiques qui nous semblaient intéressantes de prolonger dès aujourd'hui et qui, je le répète parce que c'est important, et qui sont déjà en place dès maintenant. On n'est pas dans l'imagination de formes de mobilisation qui existeraient peut-être si jamais des gens se mettent en route. Non, non, on est dans des choses qui sont là, effectivement, et donc il s'agit d'intensifier, quoi.
En Antonio Delfini, co-auteur avec Raphaël Snorigozzi du livre « Contre Euralil, une critique de l'utopie métropolitaine », sorti en avril 2019 aux éditions Les Étacs.
Qu'est-ce qu'elles ont nos villes, ressembler aux femmes qui brillent.
Voilà, si vous voulez vous procurer le bouquin, allez voir votre libraire. Indépendant, si possible. Retrouvez cette émission en ligne, en libre écoute et téléchargement sur notre site garantie sans pub www.radiopfm.com.
Une vaste plaine, une montagne, on abandonne son nid. Qu'elles ont nos villes à entasser des solitudes, à faire perdre le nord, le sud, dans un centre en exil. Qu'est-ce qu'elles ont les villes à enfiler des perles de rêve, à lâcher des coulées de sève dans des quartiers nubiles.
Qu'est-ce qu'elles ont les villes? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont les villes? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont les villes? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont les villes? Qu'est-ce qu'elles ont?
Qu'est-ce qu'elles ont les villes à orchestrer nos mouvements? Penser que c'est émouvant d'attendre dans la file. Qu'est-ce qu'elles ont les villes à voler l'histoire de ces ruines, aux millions d'ombres orphelines qui traversent la ville, qui traversent la ville.
Qu'est-ce qu'elles ont les villes? Qu'est-ce qu'elles ont? 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 Qu'est-ce qu'elles ont les villes?